Aujourd'hui avec Max Gallo, 58-51 avant Jésus-Christ, la guerre des Gaules.
César prit d'assaut plus de 800 places fortes, soumit 300 tribus, combattit 3 millions d'ennemis, fit 1 million de cadavres et emmena 1 million de prisonniers. Plutarque.
Ans d'histoire. Que serait la France d'aujourd'hui si, au début de son histoire, elle n'avait pas connu l'occupation romaine ? 4 siècles pendant lesquels la Gaule est devenue la province la plus prospère d'un empire qui lui a apporté sa langue, sa richesse, son administration, sa culture et surtout le sentiment d'appartenir à un même peuple. Ce n'était pas encore le cas pourtant lorsqu'en 58 avant Jésus-Christ, les Romains envahissaient la Gaule et commençaient une guerre de 8 ans, la guerre des Gaules. Une guerre meurtrière et qui allait faire d'un proconsul romain de 42 ans un des plus grands conquérants de l'histoire.
Une future glorieuse victoire pour Caius Julius César, proconsul de la Gaule transalpine.
Pour le moment.
Jules César, roi des Romains.
Roi ? Non. Non, non. Je ne veux pas abolir la République. Je veux la commander.
Une modeste ambition.
Alexandre le Grand avait 10 ans de moins que moi aujourd'hui. Quand il a conquis le monde.
À ton âge, il était mort.
Raison de plus de me dépêcher.
Max Gallo, bonjour.
Bonjour.
Alors après De Gaulle, Victor Hugo et Napoléon, vous venez de publier aux éditions Ixo une nouvelle biographie, hein, celle de Jules César, 450 pages, dont plus du quart est consacrée aux 8 ans de la guerre qu'il a menée en Gaule. C'est dire l'importance qu'elle a pu avoir, je pense, dans sa carrière. Au fond, on a l'impression, en vous lisant, que sans la guerre des Gaules, Jules César n'aurait pas la place qu'il occupe aujourd'hui dans l'histoire.
Je crois que c'est vrai, et pas seulement parce que nous sommes les héritiers de cette conquête, et qu'il a donc modifié le sort de nos lointains ancêtres, à supposer que les Gaulois le soient, mais parce que dans la carrière politique de César, le fait d'être le victorieux, l'auteur en même temps d'un livre dont nous parlerons sûrement, Les Commentaires de la guerre des Gaules, qui est en même temps le récit de la bataille, une apologie de César par lui-même et une œuvre de propagande, il a conquis la conscience des Romains, il a pu distribuer un butin gigantesque à ses légions, et donc cette guerre a joué dans sa carrière politique réellement le rôle d'un tremplin. C'est à la suite de cette guerre qu'il a franchi le Rubicon en 49 avant Jésus-Christ, et qu'il a donc, jetant le sort en est jeté, qu'il est devenu le candidat à la maîtrise de Rome.
Au fond, quand il entre en Gaule, on a l'impression qu'il le fait plus, enfin qu'il le fait plutôt moins pour agrandir l'Empire, d'ailleurs qui en est assez balbutiement, qui en est assez tout début sur le plan géographique, que pour satisfaire une ambition personnelle. Et vous avez évoqué la guerre des Gaules, dont vous avez dû vous inspirer, Max Gallo, le livre
texte
de César,
célèbre,
le texte de César sur cette guerre qu'il a menée, et dont vous dites chaque phrase doit être une pierre, enfin en faisant parler César, chaque phrase doit être une pierre du monument qui me célèbre. Alors il faut rappeler aussi que la guerre des Gaules, c'est le seul livre par lequel on sait ce qui s'est passé. Les Gaulois n'ont laissé aucune trace de cette guerre dont ils ont été les vaincus.
Vous avez cité en commençant les chiffres que donne Plutarque, car les historiens Suétone, Plutarque, Tacite parlent évidemment de la guerre des Gaules puisqu'ils parlent de César, mais les chiffres que vous avez donnés, 1 million de morts, des esclaves, montrent qu'il s'est agi réellement d'un génocide. On emploierait ce mot aujourd'hui, d'un génocide culturel d'abord, car rien ne nous est resté à part une dizaine, une vingtaine de mots de la langue gauloise. Nous connaissons encore peu aujourd'hui, malgré les archéologues, les mœurs et les coutumes des Gaulois, et donc toute toute l'invention, la créativité d'un peuple, ses institutions mêmes ont été totalement laminées, arasées par la conquête romaine.
Alors si elle s'appelle, Max Gallo, la guerre des Gaules, c'est que des Gaulois, il y en a des quantités, il y a une soixantaine de tribus gauloises, c'est ce qui a facilité...
Soixantaine de peuples même, pense qu'il vaut mieux dire peuple dans la mesure où ça donne bien, au-delà de l'idée de tribu qui évoque quelque chose de limité, les peuples c'est plusieurs centaines de milliers de personnes, car la Gaule, et c'est un des éléments qui attire d'ailleurs les Romains en Gaule, dans ce qu'on appelle la Gaule chevelue, c'est-à-dire notre France pour simplifier, la Gaule est un pays très riche, riche en hommes, riche en femmes, riche en or, riche en production, en blé, en d'autres céréales, et en chevaux notamment aussi, et tout cela attire beaucoup, c'est donc une conquête à faire, à la fois pour des raisons politiques que j'ai évoquées, pour la carrière de César, mais aussi pour des raisons de butin.
Alors il y a les Arvernes, les Bituriges, les Séquanes, les Parisiens, les Senons, les Allobroges, les Carnutes, les Éduins, enfin des quantités de ces peuples. Il y en a même au-delà des frontières de la France actuelle. Les Helvètes, je crois, sont des Gaulois.
Ils ont joué, je répète un mot sur les Helvètes, les Helvètes ont joué le rôle décisif dans le déclenchement de la guerre. Car cette guerre est une guerre provoquée. C'est pas une guerre, c'est une guerre nécessaire à César et c'est une guerre qu'il provoque.
Alors on y reviendra, mais il y a aussi des Gaulois dans le nord de l'Italie et d'ailleurs ces Gaulois font peur depuis assez longtemps aux Romains. Écoutez effectivement à quel point ils impressionnent les Romains de l'époque de Jules César, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Et depuis très longtemps, les Gaulois ont auprès des Romains la réputation d'être des guerriers féroces et barbares et de combattre tout nus. Polybe, un grec du IIe siècle avant Jésus-Christ, disait déjà d'eux. Effrayant était l'aspect de ces hommes nus, remarquables par l'éclat de leur vigueur et de leur beauté. Alors, ils sont d'autant plus effrayants qu'ils montent à l'assaut dans un bruit assourdissant. La quantité de buccins et de fanfares était incalculable, écrit Polybe, et s'y ajoutait une forte clameur de toute cette armée, poussant en chœur son chant de guerre. Alors, les guerriers gaulois ont aussi la réputation d'être couverts d'or. Pour preuve, ce passage de l'Énéide de Virgile. D'or sont leurs cheveux, d'or est leurs vêtements, leurs cous sont cerclés d'un collier d'or. Aux mains de chacun scintille le fer de deux grands javelots. De hauts boucliers couvrent la longueur de leur corps. Mais pour les Romains, ces Gaulois sont surtout des brutes. Aux ennemis vaincus, ils enlèvent la tête, qu'ils attachent au cou de leurs chevaux, raconte Diodore de Sicile. Et quand ils rentrent chez eux, ils gardent ces têtes avec soin dans un coffre et les montrent aux étrangers de passage. Alors jusqu'à l'époque de César, les Romains restent traumatisés par le souvenir notamment de la prise de Rome par les Gaulois au IVe siècle avant Jésus-Christ. Alors Cicéron, donc à l'époque de César, ne l'a pas oublié. Ce sont ces peuples qui, jadis, dit-il, ont assiégé le Capitole. Voyez-les se répandre dans tout le forum, la menace à la bouche, cherchant à nous effrayer par les sonorités horribles de leur langue barbare. Or, Jules César, lui, n'en a pas peur et il va les voir de près, ces terribles guerriers gaulois. Et il est impressionné notamment par la quantité d'armes qu'ils possèdent, par leur ingéniosité, leur courage. Mais quand César, pour attaquer par exemple une place forte gauloise, fait avancer devant eux une tour en bois sur roues, les Gaulois, effrayés, révèlent à César leur esprit profondément religieux, superstitieux et surtout leur infériorité en matière de génie militaire. Quand, écrit César, quand les Gaulois virent que la tour se mouvait et approchait des murs, vivement frappés de ce spectacle nouveau et étrange pour eux, ils envoyèrent à César des députés qui lui dirent qu'ils ne pouvaient pas croire que les Romains ne fussent pas aidés par les dieux dans la conduite de la guerre, puisqu'ils étaient capables de faire avancer des machines d'une telle hauteur. Ils déclarèrent alors qu'ils leur livreraient leur personne et tout leur bien, une infériorité dont Jules César va savoir tirer parti.
Alors pour les Romains, Max Gallo, à l'évidence, nos ancêtres, peut-être pas les vôtres, vous êtes plutôt d'origine romaine, vous, en revanche.
C'est Gallo, je suis gaulois, je suis celte en tout cas.
Mais enfin, les Gaulois étaient des barbares, à l'évidence.
Étaient des barbares, mais les portraits qui viennent d'être rappelés sont exacts, évidemment, mais sont relatifs à une période antérieure, c'est-à-dire quelques siècles se sont passés. Entre-temps, regardons un peu la géographie, tout ce qui est aujourd'hui la plaine du Pô, qui est peuplée de Celtes, s'appelle la Gaule cisalpine.
Les Gaulois en tant que commun, qu'ils sont Celtes, hein, il faut le rappeler.
Voilà, qui s'appelle la Gaule cisalpine, est une Gaule qui a été romanisée. Et la question qui se pose, c'est simplement de savoir, et c'est d'ailleurs un projet de César, si on va leur accorder la citoyenneté romaine. Ensuite, il y a tout le sud de la France, disons au sud d'Avignon, pour simplifier, jusqu'à Montpellier et jusqu'à la frontière d'aujourd'hui avec l'Italie, est devenue la Narbonnaise.
Qu'on appelle la Gauche transalpine aussi, dont César était
la
gouverneur.
Cisalpine, c'est la plaine du Pô, oui. Et la Narbonnaise, c'est tout le sud de la France, oui, de Bordeaux jusqu'à la frontière d'aujourd'hui avec l'Italie. Et puis, il y a cette autre masse, alors, qui s'appelle la Gaule chevelue, qui est celle qu'il faut conquérir. Avec une différence, c'est que c'est, par rapport aux portraits qui ont été dessinés, c'est qu'il y a plus barbares que ces barbares.
Voilà,
ceux qui sont au-delà du Rhin.
Alors justement, il ne vient pas, comme hein, c'est très actuel au fond, il ne vient pas en conquérant quand il arrive en 58, il vient soi-disant en libérateur pour libérer les Gaulois d'une menace qui à leurs yeux est bien pire que celle des Romains, c'est les Germains.
Non, le mot important dans ce que vous avez dit, c'est soi-disant. parce que je crois réellement que l'intention... Enfin, c'est attesté que l'intention de César, c'est de faire la conquête de la Gaule, et ce qui lui manque pour se légitimer aux yeux du Sénat romain, c'est un prétexte. Et ce prétexte va être fourni innocemment, je dirais, par une partie des peuples gaulois qui sont les Helvètes. Les Helvètes, pressés par les Germains, veulent aller s'installer en Narbonnaise. Les Romains, César, les empêchent de traverser la Narbonnaise pacifiquement. Pourquoi ? Pour qu'ils se déportent vers les Gaulois et que ceux-ci appellent les Romains à leur secours. C'est donc une guerre qui est délibérément provoquée quant à la pression des Germains sur les Gaulois. En effet, elle incite certains peuples gaulois à appeler les Romains à leur secours. Mais là encore, double jeu très habile de ce César qui est en même temps un très grand politique.
En tout cas, après avoir repoussé aussi le danger des Germains, César parvient à mobiliser derrière lui les tribus gauloises pour faire ce que...
Certaines tribus gauloises.
En tout cas, pour faire ce qu'après lui, ni Napoléon ni Hitler ne parviendront à faire, c'est-à-dire envahir l'Angleterre qu'on appelait à l'époque la Bretagne.
Je vous salue, frère et allié de Rome. Je vous salue, Dumnorix et Litavic, chef des Éduins, Tiviciac, Comnios. Je vous ai délivré des Teutons et vous ai apporté la paix. César offre son pardon à tous ceux qui l'ont combattu et son amitié à ceux qui me serviront, à ceux qui se rallieront à moi. Ici, l'île de Bretagne, une terre riche. Envahissons l'île de Bretagne. Et la moitié du butin est à vous.
Alors, la guerre des Gaules, Max Gallo, s'est passé même au-delà des frontières de la France actuelle. Il a dépassé le Rhin et il attaque surtout, c'est extraordinaire, la Bretagne, c'est-à-dire l'Angleterre. Pourquoi ?
Il attaque la Bretagne parce que certains Gaulois hostiles aux Romains se sont réfugiés en Bretagne et en même temps c'est un moyen pour lui de souder autour de Rome les cavaliers gaulois qu'il enrôle dans son armée. Mais tous les Gaulois ne sont pas dupes. Il y a par exemple un chef éduin d'une tribu ou d'un peuple allié aux Romains qui va être exécuté par César parce que celui-ci voit dans l'entreprise de César de conduire les Gaulois à l'assaut de la Bretagne un moyen de décapiter les peuples gaulois de ses élites militaires. Et il appellera il appellera les Gaulois à refuser cette alliance avec Rome et les Romains l'exécuteront. En tout cas, la conquête de la Bretagne n'est pas du tout une conquête facile. C'est une conquête qui laisse à César un souvenir ambigu et il sait bien qu'il lui faut une victoire beaucoup plus spectaculaire. D'ailleurs, il ne passe que quelques jours, quelques semaines en Bretagne et se replie sur la Gaule continentale. Autre aspect, il a donc traversé le Rhin à deux reprises pour pacifier les forêts germaniques. Il a conquis passagèrement la Bretagne et en même temps, il va embarquer sur des galères pour conquérir tout le territoire que l'on appelle des Vénètes et qui est en fait l'Armorique, notre Bretagne. Et il sera donc celui qui aura traversé la Manche, traversé le Rhin et même flotter sur l'Atlantique.
Et le premier Romain, effectivement, à faire cela. Et ça a duré environ 6 ans, de 58 à 52, jusqu'à un soulèvement général de la Gaule. Manifestement, la greffe romaine ne prend pas. Vous citez d'ailleurs beaucoup de chefs gaulois bien avant Vercingétorix. Il y a ce Dumnorix dont vous parlez, le chef des Éduins, qui disait « Je suis libre, fils d'un peuple libre ». Il y a le chef des Éburons, Ambiorix, Indutiomar, le chef des Trévires, Acco, le chef des Sénons, et tous vont tenter de se soulever contre Rome, et c'est finalement, en dernier lieu, Vercingétorix qui va réussir à rassembler tous ces chefs, toutes ces tribus, tous ces peuples gaulois contre les Romains, et même faire parvenir à obtenir des chefs gaulois qu'ils fassent quelque chose d'insensé, c'est-à-dire qu'ils brûlent leur propre récolte et leur propre ville.
Vercingétorix, il faut le savoir, avait été lui-même le fils d'un chef arverne, les Arvernes étant la tribu du Massif central, au fond l'Auvergne pour simplifier, et il a vécu auprès de César quelque temps, c'est-à-dire qu'il a pu comprendre ce qu'était la tactique romaine. Il a au fond, comme un colonisé ou quelqu'un qui va l'être, il a compris quelle était la force des méthodes de l'armée romaine. Et ça, chez César, c'est un sentiment profond qu'il exprime à plusieurs reprises, ce jeune Gaulois que j'ai instruit et qui se retourne contre moi. Et Vercingétorix, ça l'a capacité tout à fait exceptionnelle de rassembler autour de lui les différents peuples gaulois en appliquant des méthodes d'une brutalité extrême. C'est-à-dire ceux qui ne se rendent pas à ce rassemblement vont être mutilés, on leur crève les yeux, on leur coupe les oreilles, la main. Il se fait livrer des otages des différents peuples gaulois de manière à être sûr de leur fidélité et il va rassembler ainsi autour de lui réellement la majorité des peuple gaulois, y compris certains d'entre eux, comme les Éduins, qui dans un premier temps avaient été les alliés de Rome.
Mais surtout, d'abord, on voit que c'est pas aussi spontané, hein, ce rassemblement autour de Vercingétorix, mais surtout, d'abord, ils refusent toute bataille rangée. C'est vraiment une guerre de guérilla, cette guerre des Gaules.
Tout à fait, c'est une guerre de guérilla, et vous avez eu raison de souligner qu'ils pratiquent la terre brûlée en disant, il faut laisser aux Romains une terre sur laquelle ils ne trouveront pas de quoi s'alimenter. Il faut les tenir de cette manière.
Brûlez les réserves et les granges. Tu veux notre perte?
Fais ce que je te dis, c'est moi qui vais le faire.
Il est en train de brûler toute la Gaule, et tes légions meurent de faim. Les soldats commencent à lorgner les chevaux.
Nous allons avancer à travers le feu et attaquer Bourges. Nous allons faire ce que Vercingétorix aurait dû faire. Nous allons tuer tous les habitants. Je veux un bain de sang.
César, ce n'est pas nécessaire.
Alors Bourges, c'est la capitale des Bituri, je crois que ça à l'époque ça s'appelait Avaricourt.
Avaricourt, hein,
Max Gallo. Et là on en dit dans cet extrait de film à la fois la terre brûlée, il essaye d'affamer.
Mais Vercingétorix, je pense à un épisode qui montre la violence et la force de sa détermination, c'est que les non-combattants sont chassés de la ville à défendre par Vercingétorix et les Gaulois qui les renvoient hors des murailles et que les Romains, naturellement, laissent mourir de faim. C'est donc une guerre d'une très grande violence parce que, comme c'était la pratique commune, je dois dire, qui n'était pas seulement appliquée en Gaule, tout adversaire vaincu est soit réduit en esclavage, soit le plus souvent tué. Le génocide ou la destruction physique, enfin la mort pour les vaincus, est la règle. Et ce sera le cas à Avaricum, à Bourges, par exemple.
40 000 habitants qui sont passés par les armes, par César, c'est absolument hallucinant. Ça fait près. D'ailleurs, au total, vous dites, plus tard que disait, 1 million de morts. Il faut rappeler, aujourd'hui, la guerre des Gaules fait un peu sourire, parce qu'on pense évidemment à Astérix. 1 million de morts, c'est-à-dire presque autant de morts, enfin, aux aventures d'Astérix, mais presque autant de morts que la Première Guerre mondiale.
Absolument,
Max
mais quand, par exemple, là, nous avons des chiffres que donne César lui-même, 380 000 Helvètes, sur 380 000 Helvètes, il n'en reste que quelques dizaines de mille. Les autres ont été exterminés. Donc la violence et le génocide sont la pratique courante. Je définis moi souvent cette époque comme le temps où l'on tue sans remords et où l'on meurt sans crainte. Car ça n'est pas une époque où la compassion ou les droits de l'homme, pour employer un terme d'aujourd'hui, sont en vigueur.
Et ça choque même, Max Gallo, ça choque même certains Romains. Parce qu'il faut savoir que pendant que cette guerre se déroule, vous le rappelez, à Rome, il y a des gens qui critiquent César. D'ailleurs, ils ont peut-être un peu peur aussi de ce qu'il est en train de devenir, c'est-à-dire certainement des plus grands conquérants de l'histoire romaine, qui n'en était encore qu'à ses débuts, à l'époque de la République romaine. Et là, il est critiqué par Caton, il a même été critiqué par Cicéron, puis Cicéron, qui a un peu peur, finit par se rallier lié à lui. Il suit d'ailleurs lui-même, César, attentivement à ce qui se passe à Rome.
Bien
à ce
sûr, il a ses amis à Rome. Son objectif, c'est évidemment la conquête de la Gaule. Cette conquête étant, je l'ai dit, un tremplin pour la conquête de Rome. Et à Rome, on sait très bien que cet objectif de César est évidemment la politique romaine. Et donc on critique, et tout va se jouer. Pourquoi cette année 52, qui sera la dernière année de cette guerre, est-elle décisive? Car le proconsulat, puisqu'il a ce titre de César, ne dure que jusqu'en 50 avant Jésus-Christ, et il ne pourra être à nouveau élu consul que quelques mois plus tard. Il y a donc dans le jeu des institutions quelques mois entre 50 et 49 pendant lesquels il sera démuni, il n'aura pas de troupes à sa disposition. Donc il est à la fois important qu'il fasse la conquête de Rome de la Gaule pour conquérir l'opinion romaine, et en même temps qu'il franchisse le Rubicon une fois cette conquête réalisée pour avoir des troupes à sa disposition.
Alors d'où l'enjeu, Max Gallo, des batailles qu'il livre. Il y en a une qui est perdue, il ne parvient pas à prendre la capitale des Arvernes, Gergovie. En revanche, là, Vercingétorix commet une faute majeure, lui qui a refusé constamment les batailles rangées, il s'enferme dans Alésia, et avec environ 80 000 hommes. C'est-à-dire qu'ils sont plus nombreux, les Gaulois, dans Alésia, que les Romains qui les encerclent avec 50 000 hommes. Mais là, ils compensent, vous le dites, ils compensent au fond cette infériorité numérique par des fortifications extraordinaires dont César entoure Alésia.
L'infériorité numérique est encore plus grande que celle que vous signalez. C'est que près de 300 000 Gaulois sont venus pour soutenir, il y a une armée qui arrive, et c'est ça le projet de Vercingétorix, c'est tenir Alésia et ajouter aux 80 000 combattants d'Alésia les Gaulois qui viendront prendre les Romains à revers. Si bien qu'on comprend très bien le plan des fortifications de César, en voyant que ce sont au fond deux cercles concentriques, un premier cercle qui enferme Alésia, puis une zone où se trouvent les troupes romaines et un deuxième cercle de fortifications pour se défendre contre l'armée extérieure gauloise. Les Romains, au fond, n'ont qu'une seule possibilité, c'est vaincre. Simplement, le lieu a été choisi par César, et Vercingétorix a commis l'erreur, au fond, de se placer sur le terrain choisi par l'adversaire, et surtout, les fortifications sont des fortifications, on a retrouvé d'ailleurs, alors là, les fouilles sous Napoléon III ont permis de mettre à jour les différentes fortifications, des palissades, des pièges à loups, des armes, des lances enterrées, des lames à fleur de terre, des lames dressées, tout ça portant un certain nombre de noms. Bref, il est extrêmement difficile, sinon impossible, de franchir ces quatre rangées de fortifications.
Si bien qu'au bout de trois mois, donc en juillet 52 avant Jésus-Christ, Vercingétorix, donc, qui se retrouve seul, finit par se rendre à Jules César.
Je suis venu t'offrir l'éclat de ta victoire, que Rome validera, et dont elle assumera la reconnaissance perpétuelle, gravée dans quelques pierres indestructibles, ou rappelée par des flammes éternelles.
Je t'ai offert d'être roi.
Alors accepte la reddition d'un roi.
Alors c'était une version un peu romancée de la capitulation de Vercingétorix, hein, d'après le film de Jacques Dorfman. Vercingétorix qui est donc capturé et qui ne mourra que 6 ans plus tard. Je crois qu'il est emmené à Rome.
Oui, parce que évidemment la tentation de César aurait été de dégorger Vercingétorix comme c'était la règle pour les autres prisonniers. Mais il voulait, ça aussi c'était la règle, il voulait que Vercingétorix participe à son triomphe dans une cage comme les souverains vaincus. Il a donc été mis dans une cage, transporté à Rome, enfermé. On visite, quand on va sur le forum romain, on visite la prison de Vercingétorix, le Tullianum, qui est une espèce de cellule souterraine, et il va participer, enchaîné au triomphe de César, derrière les légions qui défilent, et il sera étranglé dans les jours ou les heures qui ont suivi. Un sort, évidemment, tout à fait terrible, tragique, puisqu'il y a cette longue incarcération qui se termine par l'étranglement, par l'égorgement ou l'étranglement.
Et 2 ans d'ailleurs avant l'assassinat de César lui-même, de son vainqueur. Au fond, pour César, le bilan de la guerre des Gaules, bon, bah, il était important, mais en même temps, ces ambitions ambitions qu'il avait ont été...
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il a parfaitement réalisé son objectif. Simplement, comme toujours, il y a un effet boomerang. Sa réussite même l'aveugle sur les conspirations et les jalousies qu'il a déchaînées à Rome, et il sera poignardé alors qu'il n'imagine pas qu'on puisse, lui qui est devenu l'impérator, qui est en même temps le pontifex maximus, le grand pontife de Rome, il n'imagine pas que les sénateurs iront jusqu'à le poignarder, ce qui sera le cas aux îles de Mars en 44.
Alors, en revanche, Max Gallo, pour la France, c'est le début de 4 siècles à peu près d'occupation romaine. On devient les gallo-romains. Au fond, Alésia, c'est une défaite, bien sûr, mais qui a été plutôt bénéfique et importante pour l'histoire de la France à venir.
Je ne sais pas, ne prenons pas pour nécessaire ce qui s'est produit. Disons que le peuple gaulois, en effet, saigné, s'est parfaitement adapté à la nouvelle civilisation romaine, et les Gaulois, il y a eu ensuite plus tard des empereurs gaulois d'ailleurs, les Gaulois sont devenus des citoyens romains, comme les autres, j'allais dire, et nous avons désormais une langue qui est issue en bonne part de la langue romaine.
La revanche un peu des vaincus. En tout cas, je recommande, Max Gallo, la lecture de votre nouvelle biographie, donc César, impérator, une biographie de Jules César, où on va jusqu'à son assassinat, précisément, et un livre qui vient d'être publié donc aux éditions XO. À lire également La guerre des Gaules de Jules César, édité chez Gallimard dans les collections Folio Classique. Vous avez pu entendre des extraits du film Vercingétorix de Jacques Dorfman, disponible en vidéo avec Christophe Lambert, que l'on a entendu dans le rôle de Vercingétorix, et Klaus Maria Brandauer dans le rôle de César. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Philippe Duclos et Sandrine Laurent. Documentation Virginie Bloch-Lenné et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Jacques Sigal.
Une émission de Patrice Gélinet.
Demain, dans 2000 ans d'histoire, avec Hélène Carrère-Dancos, nous parlerons d'un empereur oublié, mais qui lui aussi envahit la France bien après Jules César, l'empereur de Russie Alexandre Ier.